vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM.
La paralysie cérébrale touche une naissance sur 550. C'est le premier handicap moteur de l'enfant. Pour aider la recherche, participez à Steptember, l'événement ludique qui consiste à effectuer 10 000 pas par jour tout ce mois de septembre. On vous dit tout avec Sébastien Verdun, athlète rugby fauteuil, paralysie cérébrale, qui était aux Jeux Paralympiques. Il soutient Steptember. Nous sommes aussi accompagnés de Delphine Gann, administratrice de la Fondation Paralysie Cérébrale, qui est en charge de cet événement dont on parle de 13h à 14h sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Et on retrouve nos deux invités, Sébastien Verdun, athlète rugby fauteuil, et Delphine Gann. Alors Sébastien, vous disiez hors antenne, vous n'êtes pas tout à fait paralysé cérébral, c'est différent, expliquez-nous la différence.
Alors moi c'est une malformation de la colonne, donc ça s'appelle spina bifida, c'est au niveau de la naissance, la colonne qui ne s'est pas fermée. Donc ça ne fait pas partie des paralysies cérébrales, mais, parce que ce n'est pas le cerveau, c'est plus bas. Mais comme je dis, dans le handicap, on est une grande famille, donc on soutient tout le monde.
Et la recherche sur la paralysie cérébrale peut-être pourrait aider les gens qui souffrent de spina bifida ?
Mais de toute façon, les avancées dans la recherche peuvent servir à tout le monde, puisque quand on trouve des choses, on trouve des fois d'autres choses qui font que ça sert pour d'autres. Donc,
Ouais. Delphine Gann ?
Oui, absolument. Je répondrai peut-être plus pour Sébastien au niveau de la recherche, mais en effet, les progrès de la recherche, c'est aujourd'hui, et avec les personnes atteintes de paralysie cérébrale ou en fauteuil, dont les progrès peuvent en tout cas bénéficier. Et ça peut servir à tout le monde. C'est bien le principe de la recherche.
Oui, oui. Alors, avant de parler de Steptember, un petit mot sur la recherche. On en est où ? Vous attendez quoi de cet événement ?
Alors nous, on attend aujourd'hui, le Steptember, ça incite surtout les participants à bouger vraiment plus, à avoir une vie plus saine à travers un défi sportif qui est de faire 10 000 pas par jour ou 40 activités qui peuvent être des équivalents sportifs, tout en invitant ses proches à soutenir en collectant des fonds pour la recherche. Oui. Le but aujourd'hui, c'est que le Steptember, ça devienne le téléthon de la paralysie cérébrale.
Oui, oui. Ça fait combien d'années ?
Alors, ça fait depuis 2010 en Australie, mais c'est arrivé en France seulement depuis 3 ans. Donc voilà, d'où l'effort aujourd'hui pour nous d'œuvrer pour faire connaître et la paralysie cérébrale, les besoins qu'on a au niveau de la recherche sur la paralysie cérébrale et également l'événement Steptember.
Oui, alors 10 000 pas, ça correspond à quoi ?
Ça correspond à 8-10 kilomètres à pied, mais il y a aussi, quand on fait du vélo, il peut y avoir énormément d'autres activités. Il y a 20 minutes, vous rajoutez rapidement 20 minutes de jardinage, de 1 heure de yoga, et très très rapidement, en fait, on arrive à plus de 10 000 pas par jour. C'est assez facile à atteindre.
Oui. Et Sébastien, vous aussi, vous participez ?
Oui, j'y participe, oui.
Donc, décrivez-nous, là vous êtes en fauteuil, vous marchez pas, mais vous roulez, et vous roulez sur, comment vous faites pour apprécier la distance ?
Alors, en fait, sur l'application, c'est très simple, on peut rentrer manuellement les activités qu'on fait, donc comme du jardinage, ou moi, pour mon cas, donc tous mes entraînements, ils sont déjà prédéfinis en nombre de pas, et du coup, ça se cumule comme les autres.
Oui, oui, et on n'en a pas parlé, de votre parcours sportif, mais vous êtes un professionnel du rugby fauteuil. Enfin, vous avez participé aux Paralympiques de Tokyo. Comment ça s'est passé pour vous ?
Ah bah, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu la médaille qu'on voulait. On n'a pas eu de médaille, on en voulait une. Après, on a fait un très beau parcours puisqu'on tombait dans une poule qui était assez difficile avec le champion du monde en titre et le champion paralympique en titre.
Oui, bah oui.
Et on perd que de 2 points contre ces deux-là. Et on loupe la demi-finale de seulement 1 point. Oui. Donc ça, c'était très serré, les matchs se jouent à rien. Et puis malheureusement, ça n'a pas tourné dans notre faveur, donc on finit 6e du coup. Mais on aurait pu finir 6e comme premier, tout le monde a été serré, donc on a fait plutôt des bons matchs.
Oui, il y a combien de nations qui participent au rugby
fauteuil ? Il n'y a que 8 nations. On n'est que 8 au monde sur, je dirais, peut-être une soixantaine de nations qui existent. On n'est que 8.
Et ce sont les plus grandes nations du rugby valide ? Qui participent au rugby fauteuil, non ?
Non, du tout. Il y a des nations qui sont fortes en rugby valide. On va retrouver l'Australie, on va retrouver le Canada qui s'est joué maintenant, le Japon qui a bien progressé. Après, il va y avoir d'autres nations parce que ça va dépendre en fait du développement du handicap dans ces pays-là. Et ensuite, si le handicap est mené vers le sport, vers une optique de sport, pour pouvoir développer tout ça après.
Oui, et un petit mot aussi pour nous expliquer ce qu'est le rugby fauteuil. C'est pas tout à fait le rugby valide. Enfin, c'est pas la même chose. C'est pas le même sport.
Alors, c'est effectivement, on appelle ça rugby fauteuil parce que ça accroche plus pour les gens. Mais c'est un sport à part entière avec un mélange de plein de sports qui sont canadiens au départ, puisque ça a été créé par les Canadiens. C'était créé pour la rééducation, puisque le sport est nécessaire pour la rééducation. Et donc, c'est un mélange de hockey, puisqu'il y a des minutes de prison comme au hockey. On joue sur un terrain de basket. Le ballon qu'on utilise, c'est un ballon de volley. Et les phases de jeu sont beaucoup plus proches du football américain. Mais ça s'appelait Murder Ball au départ. Puis c'était trop violent comme nom, donc ils ont changé. Et maintenant, ils appellent ça rugby.
Oui, et oui, c'est vrai que il y a vraiment des chocs. Vous lancez contre les autres fauteuils.
Mais tant qu'on est devant l'adversaire, donc devant ce qu'on appelle l'axe des roues, on peut faire ce qu'on veut. Donc les contacts qu'on veut. Et si on fait tomber l'adversaire avec qu'il a le ballon, il perd le ballon. Donc c'est tout bénef.
Oui, oui, il y a des plaquages de fauteuils, c'est ça.
C'est ça, c'est un peu les autotamponneuses.
Oui, donc un sport fascinant. Je vous encourage vraiment à regarder sur internet des compétitions. Votre prochain match, c'est quand?
Alors pour l'instant on est en pause puisqu'on est revenu des jeux il n'y a pas longtemps. Le championnat est assez léger, ça date que depuis 2007 en France, le rugby, donc c'est encore assez léger. Donc le premier match de championnat, il est en décembre, si je me trompe pas. Et après, par contre, les championnats d'Europe à Paris,
oui,
en fin février.
Oui. Et pourquoi vous engagez-vous dans la lutte pour recueillir des fonds pour la paralysie cérébrale dans September?
Parce que c'est important. Moi, j'ai pu en bénéficier quand j'étais plus petit, pas avec September, mais avec d'autres choses, par rapport à mon handicap. Ce qui m'a permis de me développer, de commencer à toucher au sport, puisqu'au départ, je touchais à plein de sports pour ma rééducation. Et c'est ce qui m'a amené après vers le haut niveau et puis à ma vie maintenant que je mène de tous les jours. Donc c'est très important de pouvoir participer et aider les plus jeunes.
Oui, oui. Delphine Gann, vous êtes concernée particulièrement, personnellement, par la paralysie cérébrale. Vous avez un enfant qui en est atteint.
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait? Quel âge a-t-il et qu'est-ce qu'il fait comme rééducation? Qu'est-ce qu'il peut...
Moi, j'ai mon fils s'appelle Martin. Il a 4 ans et demi et il a pas le même type de handicap que Sébastien, mais il a une hémiplégie, c'est-à-dire tout le côté droit qui est partiellement paralysé. Et il a effectivement beaucoup d'activités physiques. Alors, en effet, quand ils sont petits, à 4 ans, c'est difficile de les inscrire à des sports. Donc, on est bien obligé de les avoir, de les mettre dans des séances de rééducation. Donc, il a 2 séances de kiné par semaine, 1 séance d'ergothérapie, 1 séance de psychomotricité et 2 séances d'orthophonie par semaine.
Oui.
Et un éducateur aussi.
Qu'est-ce qu'il fait? Il peut nager? Il peut faire des...
Alors aujourd'hui, il a bien avancé justement parce que les progrès de la recherche, des études avec la Fondation Paralysie Cérébrale en Belgique autour de rééducation intensive, il a beaucoup avancé. Il a marché autour de 2 ans, 2 ans et demi. Aujourd'hui, il peut courir, il peut sauter. Pas très très bien, pas très très haut. Il fait un peu de vélo avec des roulettes, il commence en tout cas. Donc il commence effectivement à avancer progressivement et à rattraper des retards moteurs qu'il avait pu avoir au départ. Tout ça aussi, grâce à la recherche et à ce qu'on a pu financer avec la Fondation Paralysée Cérébrale, ça nous a énormément permis d'avancer. Et le but, c'est aussi de faire du sport énormément à terme, à long terme comme Sébastien, et de lui donner le goût du sport en effet, parce que c'est ce qui est important pour une sorte de rééducation au quotidien.
Oui, oui, oui. Justement, il fait du sport. Ça l'aide beaucoup dans sa rééducation. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'il pourra marcher comme un autre et faire les choses d'un autre?
Alors, j'espère qu'il pourra arrêter des rééducations au profit de toujours continuer à faire du sport, à faire une activité physique qui va lui permettre. Il en fait pas beaucoup aujourd'hui, il est inscrit à un multisport. Avec le Covid l'année dernière, il a eu 3 cours de judo, c'est un peu compliqué, mais j'essaie de lui donner, oui, le goût du sport. Là, le nouveau club me dit qu'ils sont très inclusifs handicap, donc j'ose espérer que ça va bien se passer et qu'ils vont pouvoir le motiver, parce que le problème, c'est que j'espère qu'il sera pas mis de côté, et voilà. Mais en effet, le but étant lui donner vraiment le goût du sport et l'envie de bouger pour au maximum enlever des séquelles à l'avenir. En tout cas, il marche, il boite, mais il boitera à vie.
Oui, oui.
La paralysie cérébrale reste des séquelles vraiment irréversibles qui vont rester et persister à vie. Simplement, ce qu'on essaie de faire, c'est de contourner les lésions et de rattraper effectivement rattraper des retards et grâce aux avancées des thérapies, de ce qu'on peut voir dans la recherche.
Oui, Sébastien Verdun, justement, vous avez bénéficié, vous nous l'avez dit tout à l'heure, de cet accompagnement qui permet d'aider le tout petit justement à travailler physiquement, à travailler et à avancer, à progresser, à rattraper son retard.
Oui, oui. En fait, depuis tout petit, j'ai été inscrit dans un EREA qui s'appelle Toulouse-Lautrec, qui est à Vaucresson.
Oui.
Et donc, depuis tout petit, il y avait un centre de rééducation avec. Donc, j'avais des séances de kiné, j'avais des séances de plein de choses. Et on m'a tout de suite mis au sport. Et donc, au début, je touchais à plein de choses. Je faisais de l'athlétisme, du basket, du tennis, de la natation. J'ai fait à peu près tout ce qui est inimaginable. Et puis après, je me suis spécialisé vers les sports où j'étais le meilleur, on va dire. Pour m'amener vers le haut niveau, mais le sport, c'est l'école de la vie, c'est hyper important pour le développement, mais pas pour le handicap encore plus, parce que du coup, vu qu'il y a un retard, il faut pouvoir rattraper ce retard, et le sport est la meilleure des façons, mais même pour tout le monde, c'est pour rien que tout le monde doit faire du sport au moins une fois par jour, et c'est pour ça les 10 000 pas, c'est ce qui est préconisé pour la santé.
Oui, 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 c'est bon pour tout le monde le sport, Delphine.
Absolument, heureusement. Non, en tout cas, c'est très inspirant d'être à côté de quelqu'un comme Sébastien. Et moi, pour mon enfant, c'est extrêmement inspirant, enrichissant. Et effectivement, voilà, nous, on encourage aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Fondation Paralysie Cérébrale, elle se finance uniquement par les dons privés et par le mécénat. Voilà, d'où la nécessité pour nous d'avoir des actions.
Il n'y a pas de fonds publics ?
Il n'y a pas du tout de fonds publics, on a des soutiens. Aujourd'hui, on est soutenu par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont totalement partenaires. Ils soutiennent September avec le ministère des Sports, la ville de Paris, la Fédération française de handisport, le ministère de la Santé et bien sûr le secrétariat chargé des personnes handicapées. Donc voilà, on est soutenu par tous ces ministères pour encourager les gens, d'une part, à bouger et à les inciter à faire ce défi santé, bien-être intéressant et important pour tout le monde, surtout en ces périodes de Covid où on a moins marché, où on a moins bougé. Moi, je vois, ça me fait du bien, là, en septembre, de faire mes 12, 15 000 pas par jour, parfois. Et honnêtement, voilà, on est bien content effectivement, que toutes ces personnes nous soutiennent, ainsi que Sébastien. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler, Sébastien, le nom de votre équipe sur September ? Parce que, voilà, ce qui est important, c'est aussi les dons. Et on a besoin, par exemple, que les gens qui nous entendent puissent aller sur la page de September de Sébastien, qui s'appelle France...
C'est France Rugby Fauteuil, notre équipe. On est deux de l'équipe à partir avec Nicolas.
Et donc ne pas hésiter à aller sur France Rugby Fauteuil pour pouvoir aller faire un don sur la page de Sébastien, et les dons seront spécifiquement dédiés à la recherche sur la paralysie cérébrale. Mmh. Et voilà, on a vraiment besoin d'eux. La Fondation Paralysie Cérébrale, il faut savoir que c'est la seule et unique fondation en France dédiée à la recherche sur la paralysie cérébrale.
Oui, oui. Et concrètement, on veut participer, on veut faire ces 10 000 pas, comment fait-on ?
On va sur le site de september.fr, on s'inscrit, c'est 25 euros par personne, 100 euros pour une équipe de 4, c'est seulement par 4 maximum. Là déjà, on participe activement en faisant les 10 000 pas par jour. Et en plus, ça vous crée une page de collecte que vous pouvez renvoyer à vos collègues et amis. Et là, vous pouvez faire participer effectivement un maximum de monde en envoyant sur votre page de collecte et en collectant des fonds, en effet, pour la recherche.
Oui, oui, donc on pourrait collecter sans marcher, finalement.
On pourrait aussi, complètement. Vous pouvez. On peut faire les deux. On vraiment, chacun fait ce qu'il veut. On peut marcher, on peut collecter, ou on peut marcher et collecter en même temps.
Oui, oui, oui. Et vous, Sébastien, comment avez-vous créé votre équipe ?
Je suis passé par l'association. On a créé une équipe donc avec Nicolas, qui est un joueur de rugby avec moi, d'équipe de France. Et puis j'ai rajouté aussi un ami du coup qui a voulu participer. Donc on est trois là dans l'équipe.
Et vous faites quoi alors les trois pour faire vos 10 000 pas ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors moi je rentre tous mes entraînements, parce que ça, je m'entraîne deux fois par jour, 1h30 à 2h à chaque fois, donc ça, les 10 000 pas j'y suis largement. Mon collègue pareil, il s'entraîne beaucoup, et puis mon ami, bah, il ne sait pas quand il va au travail, quand il fait les tâches ménagères, tout ça, il rentre son quotidien.
Oui, oui, oui. Et vous Delphine ?
Et moi, écoutez, ça m'encourage un peu plus à lâcher ma voiture, à prendre plus mon vélo, à marcher davantage là au mois de septembre, parce que peut-être que d'habitude, je suis peut-être à 8000 pas quotidiens, on va dire. Et là, je suis obligée d'en faire un peu plus en ce moment, et c'est tout le but de Septembre, et de pouvoir du coup parler un peu plus de la paralysie cérébrale. Ça me permet d'en parler autour de moi davantage.
Oui. On va faire une pause, mais vous restez avec nous, Sébastien et Delphine. On va continuer à parler de Septembre, cet événement qui a lieu tout le mois de septembre.
Vivre FM, la radio de toutes les différences.
Cause you said forever, now I drive along past your street.
Tu peux la trouver ancrée sur ma peau tous les soirs. Prends des couleurs, elle te fera péter les plombs. Tu peux tomber dessus dans le métro, elle se joue solo ou à plusieurs, elle te fera parfois perdre la raison. Est-ce que tu ressens les pulsations? Tape sur la caisse, fais résonner le son. Est-ce que tu sens monter la pression? Oh, oh.
Folie arcadienne, Arcadien sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Et nous parlons d'un événement Septembre. Tout ce mois de septembre, ça se termine le 31 septembre. Il faut faire 10 000 pas pour aider la recherche pour la paralysie cérébrale. Alors 10 000 pas, ça équivaut à 8-10 km, hein, Delphine, c'est ça?
Oui, c'est ça. À peu près 8-10 km, en effet. Aujourd'hui, Septembre, ça a été très important parce que ça a permis à la Fondation Paralysie Cérébrale de répondre à des appels à projets, des grands travaux qui sont sélectionnés par la Fondation et par un conseil scientifique qui est composé d'experts européens. Aujourd'hui, la Fondation, elle décide de financer un grand projet tous les 3 ans à hauteur de 1,5 million d'euros. Donc ça signifie qu'il faut lever 500 000 euros chaque année. Le dernier grand projet qui a été financé s'appelle CAP, Habite-t-il, et auquel mon fils a participé, donc je peux en parler. Il s'agissait d'une rééducation intensive chez l'enfant, chez les moins de 4 ans. Pour améliorer la prise en charge et la qualité des personnes handicapées et surtout leur autonomie. Il s'agissait de 50 heures de rééducation en l'espace de 2 semaines qui permet aux enfants, grâce à un principe ludique, d'atteindre 5 objectifs sur un délai très très court. Voilà, c'est un peu compliqué comme ça à vous expliquer en 2 mots, mais en l'occurrence, voilà, ça a été un très beau projet de recherche dont les résultats sont attendus pour 2022, pour l'année prochaine, mais qui déjà augure de résultats très bénéfiques, en effet, pour les enfants et de résultats, en tout cas, intéressants qui ont été constatés.
Oui, oui. Allez-y.
Et le prochain grand projet qui a été voté et sera financé à partir de l'année prochaine concerne le dépistage précoce de la paralysie cérébrale et le fait de limiter ses conséquences dans un délai très court pour aider au maximum et prévenir les lésions possibles.
Oui, oui. Comment savoir si son fils, sa fille est atteinte de paralysie cérébrale ?
C'est difficile, c'est pas évident. Ça dépend en tout cas des atteintes précises, parce que la paralysie cérébrale, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la première cause de handicap moteur chez l'enfant. En réalité, il y a des enfants comme le mien qui a une hémiplégie qui ne sont diagnostiqués qu'à 9 mois, 1 an, 1 an et demi. Et en effet, c'est pas toujours évident. Alors il y a plusieurs signes en effet de l'ordre de crispation, de membres tendus, de poings serrés, de manque de tonus et de retard dans les acquisitions aussi simplement, qui peuvent être révélateurs comme ça d'asymétrie. Moi, il y avait une asymétrie entre la droite et la gauche. Mais la paralysie cérébrale, ça peut être aussi, c'est un trouble de la posture ou du mouvement qui peuvent atteindre vraiment, c'est soit une paralysie très légère, soit une paralysie des quatre membres. Donc, ça va vraiment dépendre de là où ça atteint et où la lésion a donné des conséquences. Mais en effet, ces quelques signes-là peuvent être révélateurs. Les causes, c'est aussi de la grande prématurité. Donc souvent, on peut se rendre compte aussi rapidement si l'enfant a été pris en charge. Il y a des AVC, c'est le cas de mon fils. C'est un accident vasculaire cérébral in utero qui a eu lieu et qui n'a pas été détecté tout de suite. Il y a des cas d'infection, infection in utero ou dans les premières années de vie. Voilà, des cas de maladies comme ça qui peuvent effectivement être la cause de la paralysie cérébrale.
Oui, et le personnel médical, les généralistes vont pouvoir détecter, savent détecter ?
Pas encore vraiment assez, d'où le rôle et la vocation de la paralysie cérébrale, la fondation paralysie cérébrale, excusez-moi, aujourd'hui,
vous faites partie.
Dont je fais partie, c'est aussi de évidemment en premier lieu de soutenir et de promouvoir la recherche, et en deuxième lieu c'est aussi de faire connaître les recommandations et les bonnes pratiques et de faire connaître aussi la paralysie cérébrale et ses champs d'action.
Oui, puisque plus tôt on le prend, plus tôt on pose le diagnostic, mieux on va pouvoir aider.
C'est exactement ça, effectivement, parce qu'il existe une plasticité cérébrale, effectivement, chez l'enfant. Et le fait de pouvoir intervenir et de prendre en charge précocement, d'où le but le sujet du deuxième grand projet qui va être financé à partir de 2022, c'est bien entendu de le prendre en charge très précocement par des prises en charge rapides, efficaces et surtout de changer un petit peu les mentalités et la capacité dont on a aujourd'hui pris en charge les enfants jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'était pas toujours parfaite.
Oui, oui. Ces projets de recherche, il faudrait combien pour pouvoir mener tous les projets de recherche que vous voudriez mener à la Fondation Paralysie Cérébrale ?
Alors, je pourrais pas vous dire exactement.
Est-ce que,
aujourd'hui,
est-ce que vous estimez que c'est suffisant ce que vous avez ?
Non. Moi, en tant qu'administratrice de la Fondation, je trouve que malheureusement, on peut pas sélectionner assez de projets qui permettraient de faire avancer assez. Aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, la Fondation, elle s'est créée en 2005. La Fondation pouvait permettre de financer plusieurs projets. Mais la Fondation a décidé aussi de concentrer un seul gros projet tous les trois ans pour aussi qu'il y ait une visibilité et que les personnes directement concernées, les usagers, les personnes handicapées, puissent s'en rendre compte et avoir une vraie répercussion dans leur vie quotidienne. Donc il y a un besoin d'immédiateté là, de faire des choses pour qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui au quotidien. Mais avant, c'était 77 projets qui ont été financés. Il y en a eu beaucoup. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'argent. 1,5 million d'euros tous les trois ans, c'est pas nécessaire. Mais voilà, il faut davantage d'actions comme Steptumber et davantage de soutien à la Fondation Paralysie Cérébrale pour nous faire avancer un peu plus et nous permettre de sélectionner davantage de projets.
Oui, oui, il y a un besoin.
Il faut
avancer. En France, on se situe comment par rapport à l'étranger, la recherche à l'étranger ? Vous savez pas ?
Alors non, je suis désolée. Déjà, les projets de recherche dont je vous parle, ils sont européens. Ils sont vraiment à échelle européenne, puisque effectivement, le fait de vouloir ramener des plus grands projets permet de rassembler des chercheurs vraiment à l'échelle européenne et d'avoir de rassembler plus de chercheurs. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Malheureusement, à l'échelle mondiale, je ne saurais pas vous dire. Il y a l'Australie, ils sont très en avance. Les systèmes,
c'est eux qui ont lancé September.
C'est eux qui ont lancé en 2010 September.
Oui.
Mais les systèmes de prise en charge aussi sont très différents de la rééducation d'une manière générale. En Australie, ils sont très avancés. Aux Pays-Bas, beaucoup de pays, en tout cas, sont très, très différents. Là-dessus, à la limite, je vous invite à écouter un podcast qui est sorti ce matin de Yannick Bloyenhoft, qui est la chercheuse qui a développé la thérapie habitile dont j'ai parlé juste avant. Elle a fait un podcast sur les blablas d'Andy Kapten, qui est absolument formidable, où elle explique la recherche, les tenants, les aboutissants et un peu de sa thérapie habitile. Mais qui explique beaucoup mieux ce qu'il en est sur la recherche.
Oui, oui. Donc cette recherche, on espère que vous allez pouvoir récolter beaucoup. Vous avez récolté combien l'an dernier avec September ?
Ben, je vous remercie, on espère récolter aussi beaucoup. L'année dernière, on a récolté à environ 150 000 euros. On a eu 1700 participants. Là, cette année, en 13 jours, 14 jours de collecte, on est déjà à peu près 100 000 euros et environ autant de participants. Donc, on espère dépasser les objectifs de l'année dernière et encore chaque année, un petit peu plus dépasser les objectifs et devenir ce fameux téléthon de la paralysie cérébrale en embarquant avec nous un maximum de gens et en soulevant un peu plus de fonds chaque année.
Oui, oui. Et justement, vous parlez du Téléthon. Le Téléthon, c'est reconnu par le public, on connaît tous. Est-ce que la paralysie cérébrale, ça touche autant les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas touchés personnellement ?
On aimerait que ça puisse les toucher. En tout cas, on aimerait aujourd'hui que la paralysie cérébrale soit reconnue, connue, et qu'on puisse aujourd'hui l'identifier plus facilement. Donc, ça touche 125 000 personnes en France, 17 millions dans le monde. Donc, oui, je considère que ça, effectivement, ça touche beaucoup de personnes. Et c'est donc important, effectivement, c'est important qu'on puisse mobiliser un maximum de personnes autour d'un événement tel que Steptember. Oui. Comme si c'était le Téléthon.
Oui, on espère. Alors, le Téléthon, il y a beaucoup de médias, les médias sont tous dessus. Est-ce que paralysie cérébrale, on parle de vous dans les médias, vous arrivez à vous faire entendre ?
De plus en plus, oui, grâce à nos projets, nos grands projets de recherche, tel CAP, Habit-il, on est de plus en plus visible depuis 3 ans dans les médias pour parler de nos projets très, très spécifiques et expliquer ce qu'on fait avec l'argent, à quoi correspondent les progrès de la recherche. Et on espère l'être de plus en plus, grâce à vous et à d'autres. Merci.
Mais on continue d'en parler. On en a parlé l'an dernier de Steptember. On en parlera l'année prochaine également, puisque vous allez continuer.
Évidemment, tous les ans, on va continuer à courir pour Steptember et à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.
Ouais. Ouais. On continue à parler de Steptember, on continue à parler de la recherche sur la paralysie cérébrale dans un instant sur Vivre FM.
Vivre FM, la radio de toutes les différences.
Outside, Calvin Harris sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant
avec Carole Clémence.
Et on parle de Steptember, cet événement ludique qui consiste à faire 10 000 pas dans la journée, chaque jour du mois de septembre, pour rapporter des fonds pour sensibiliser à la paralysie cérébrale. La Fondation en a bien besoin pour mener à bien ses projets de recherche. On a expliqué quels étaient ses projets. Il faut toujours de l'argent pour faire avancer les choses et aider ces jeunes ou moins jeunes à progresser dans la vie, à être aidés. Vous considérez, vous, Sébastien Verdun, être au maximum de votre progression, de l'amélioration de vos performances physiques par rapport à la maladie?
On peut toujours progresser. Le corps, il change d'année en année, en positif ou en négatif. Mais plus on fait de sport, plus c'est en positif. Donc c'est comme pour tout, comme pour au niveau scolaire, au niveau de tout, on progresse tout le temps. Il suffit de s'entraîner, d'apprendre et puis d'entraîner le corps de tous les jours.
Oui, oui, oui. Vous avez aussi eu de la rééducation petit quand vous avez découvert que vous étiez atteint de cette maladie, la spina bifida, c'est ça?
Oui, j'ai eu de la rééducation, j'en avais 2 à 3 fois par semaine quand j'étais plus petit, surtout pour le dos et puis les jambes, pour éviter justement les raideurs et tout ça, donc tout ce qui est assouplissement. Le renforcement, en fait, c'était par le sport. Le sport me servait de renforcement pour la rééducation. Ce qui m'a permis, par exemple, pour mon dos, de ne pas être opéré, de ne pas être arthrodésé, c'est grâce au sport, parce que j'ai eu le dos assez musclé pour maintenir ma colonne en place.
Ah oui, très bien. Vous faisiez quoi comme sport à l'époque?
J'ai commencé en faisant de l'athlétisme. Donc j'ai fait pendant une dizaine d'années de l'athlétisme, où je suis arrivé à haut niveau en jeune, où j'ai fait participer à 2 championnats du monde, et j'ai eu une médaille de bronze sur 100 mètres en championnat du monde de jeune.
D'accord.
Puis après, j'ai tout très vite fait en parallèle du basket. Puisque le centre de soins où j'étais me proposait plein de choses. Donc
du basket fauteuil?
Du basket fauteuil, ouais. Ou pareil, j'ai commencé, et puis vu que j'avais déjà une grosse charge d'entraînement par l'athlé, j'ai été vite à haut niveau en basket, en équipe de France Espoir, où j'ai fait 7-8 ans. Et puis après, là, depuis 4 ans, du coup, maintenant, j'ai découvert en arrivant à Dijon, là où j'habite, le rugby. Par un joueur qui m'en a parlé, parce que c'est que certains types de handicap qui peuvent être classifiés pour ce sport, et mon handicap en faisait partie. Donc coup j'ai essayé, et puis moi de toute façon plus je fais de sport, plus je suis content, et mieux c'est pour mon corps, donc je me suis pris au jeu, et pareil, vu que j'avais déjà une grosse charge d'entraînement, je suis arrivé vite à haut niveau, dès 2018, où j'ai fait mes premières sélections en équipe de France. Et puis après, s'en est suivi un mondial, un championnat d'Europe, et puis les Jeux, là, il y a un mois.
Oui. Qui peut faire du rugby fauteuil?
Alors, pour faire du rugby fauteuil, il faut être atteint à 3 membres minimum. Donc moi, grâce à mon spina, j'ai donc mes 2 jambes paralysées, et de plus, j'ai une malformation des doigts, ce qui fait que c'est l'additionnement, on va dire, de ces 2 handicaps qui fait que je peux jouer au rugby. On va avoir au niveau de la paralysie cérébrale, on va avoir des IMC. Les IMC peuvent jouer au rugby, par exemple. Nicolas, qui est en équipe de France et qui soutient aussi Steptember, est IMC. C'est un sport où il y a beaucoup, beaucoup de tétraplégiques, du coup, de par la physionomie de leur handicap. C'est un sport qui était réservé pour eux avant et qui maintenant s'ouvre du coup à des handicaps comme le mien, ou alors des handicaps aussi de tout ce qui est agénésie ou amputation. On va avoir de plus en plus maintenant.
Oui, oui. Et donc c'est un sport qui vous fait développer quelle qualité, quel intérêt de se diriger vers le rugby fauteuil?
Alors ça fait développer déjà musculairement, puisqu'on va se renforcer avec l'entraînement, avec la musculation, toute la préparation physique qu'on fait, puisque c'est un sport qui demande beaucoup beaucoup de cardio et de puissance, parce qu'on est sans cesse en train de faire des allers-retours. Et oui. Puis nous qui sommes les joueurs porteurs de balles, on est un peu les joueurs à abattre, donc faut aller plus vite que l'adversaire, sinon on se fait dégommer.
Vous avez quel poste, vous?
Moi, je suis attaquant. Donc, je suis vraiment le joueur à abattre, qui a le ballon et qui va marquer.
D'accord.
Donc, il faut pouvoir éviter. Hein. C'est un peu, je dirais que c'est un peu comme les jeux dans la cour de récré, étant plus jeune, où tout le monde, les chats, tout ça, voilà, faut pouvoir éviter et aller marquer. On va développer beaucoup d'aspects de cardio. Donc, tout ce qui est cardiovasculaire, tout ça, qui est très important aussi, pour les muscles de la respiration, de tout ça, pour la santé. Et puis on va développer aussi le sport, tout ce qui est cohésion, esprit de groupe, combativité, respect aussi qui est très important, respect des règles, respect des autres, de son équipe, de soi-même, de son corps, toute l'hygiène de vie qu'il y a derrière aussi qui est très importante. C'est un tout, c'est vraiment l'école de la vie, le sport.
Oui, oui. Et c'est vraiment important lorsqu'on a un handicap, lorsqu'on est en fauteuil par exemple, de pratiquer du sport.
C'est encore plus important que quelqu'un de valide, puisque quelqu'un de valide, au final, à part les problèmes qui vont arriver après, bah, le surpoids, tout ça qui peut arriver, son corps va plutôt quand même bien supporter le fait de ne pas faire de sport, même si c'est mieux qu'il en fasse. Alors que le handicap, en fait, on a déjà quelque chose qui ne va pas, en quelque sorte. Donc il faut pouvoir tout de suite le combattre. Par exemple, tout ce qui est manque de souplesse, tout ça, si on arrête, eh ben, on s'enraidit de plus en plus. Et après, c'est très compliqué de réassouplir quelque chose qui s'enraidit, que si, comme les gymnastes, par exemple, qui s'entraînent depuis tout petit et qui, après, en grandissant, restent très souples. C'est la même chose. Il faut le combattre très rapidement par le sport pour éviter des malformations, des positions, par exemple, de la colonne qui va changer, tout ce qui est scoliose, tout ça qui peut changer et s'aggraver. Le sport va permettre d'éviter ça, puisque oui. le maintien sera meilleur.
Oui. Alors, quel conseil vous pourriez donner, par exemple, à Delphine Gann, qui est un enfant qui a 4 ans, pour qu'il fasse du sport et dans quelles conditions, comment s'y prendre ?
Il faut La meilleure chose, c'est les associations sportives. De toute façon, le sport commence par là, comme pour tout le monde, pour tout athlète, que ce soit handisport ou valide. Il faut s'inscrire dans un club, une association sportive, près de chez soi ou non. Ça dépend après des capacités des parents ou pas à emmener l'enfant. À cet âge-là, c'est surtout ça le problème. Il faut se renseigner sur Internet maintenant, sur le site de la FFH, donc la Fédération Française Handisport.
Donc il faut choisir un club handisport.
Il faut choisir un club handisport. Après, il y a de plus en plus des clubs valides qui s'ouvrent en handisport et qui veulent bien adapter leurs séances pour accueillir du public. Ça se fait de plus en plus, mais il faut en discuter du coup avec les responsables et tout ça. Mais le mieux, c'est d'avoir un club handisport. Et puis maintenant, des clubs handisport, il y en a énormément. Ça s'est vraiment développé. Donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les comités départementaux, les comités régionaux, la Fédération Française Handisport, tout ça qui peut tout de suite emmener, faire la passerelle vers les clubs handisport pour peut-être au départ commencer par du multisport pour vraiment toucher à tout et puis découvrir ce qu'on aime en fait, mais comme pour tout le monde en fait, et puis après se spécialiser vers un sport qui nous plaît.
Oui, et on commence à quel âge ?
À tout âge.
Tout âge ?
On peut commencer...
À 3 ans ?
Mais pourquoi pas dès qu'on peut bouger et donc dès qu'on peut potentiellement faire un mouvement, on peut faire du sport puisque chaque mouvement peut devenir un sport. Donc il n'y a pas d'âge. Et puis même en vieillissant, jusqu'à il n'y a vraiment pas d'âge, tout âge.
Delphine Gann, vous qui avez votre fils qui a 4 ans, je crois, vous avez une question à poser justement pour lui et à Sébastien ?
Moi, j'aimerais demander à Sébastien comment... Alors, j'ai compris, donc il faut se rapprocher des associations. Moi, j'essaye. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de réussir à lui donner le goût du sport. Je sais que ça ne s'invente pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui me permettrait de le motiver, de l'aider ? Il est déjà très actif, hein. Il est sportif, il aime ça, il aime faire des choses. Mais par exemple, le judo l'année dernière, ça n'a pas collé. Donc, comment réussir à trouver effectivement la motivation et l'envie de faire du sport quotidiennement ?
Alors, la motivation, va y avoir une partie de lui, puisque c'est lui, il faut trouver le sport qu'il aime. Mais c'est comme pour tout, c'est comme pour la vie, comme pour le travail plus tard, il faut trouver ce qu'on aime, sa voie. Donc ça, c'est lui qui va pouvoir le choisir, mais c'est, vous pouvez l'aider après en lui faisant faire plusieurs sports pour qu'il découvre justement... plein de choses pour qu'il puisse choisir ensuite, avoir du choix. Après, il va y avoir le fait de se créer un groupe autour de ce sport, donc tout ce qui est amis, vie associative, qui peut aider, puisque ça crée un lien. On va faire du sport avec ses potes, parce que voilà, on les aime bien, on se dépense avec eux. Et puis après, il y a tout ce qui est objectif, ce qui est très important dans le sport, comme pour tout le monde. Nous, on s'entraîne pas pour rien, en quelque sorte. On a des objectifs plus ou moins à long terme, plus ou moins élevés ou non. Ça dépend de la capacité de chacun et puis de l'envie, si on veut faire du haut niveau ou que du loisir. Mais il faut toujours des objectifs, ne serait-ce que dans son handicap, mettre des petits objectifs même, je dirais, qui sont peut-être un peu bêtes des fois, qui peut potentiellement sait peut-être déjà faire. Mais lui, le fait de voir sa progression va faire que l'encourager et l'amener dans ce cercle positif. Pour continuer.
Super, merci. Ça me parle, ces histoires d'objectifs, en effet, puisqu'on a des objectifs thérapeutiques et là, d'avoir des objectifs sportifs pour lui et d'augmenter sa participation sociale avec des amis. Et je pense que ça, effectivement, c'est important. Merci, oui. Sébastien.
Sébastien, vous parlez d'objectifs, justement. C'est ce qui vous a amené à la compétition ?
Alors, je suis quelqu'un de très compétiteur. Donc oui, moi, dès que je fais un match, je repère le meilleur joueur de l'autre équipe et je me mets complètement en confrontation avec lui directement. Les objectifs, c'est très gratifiant de se dire qu'on se fixe des objectifs et de les réaliser, de réussir à les atteindre. Et puis mon niveau maintenant me permet d'avoir des objectifs qui font rêver, donc c'est encore plus gratifiant. Je suis très patriote aussi, donc moi tout ce qui touche autour de l'équipe de France, la Marseillaise, tout ça, c'est que du bonheur. Hein, donc oui, tout ça amène vers le haut niveau.
Oui. Est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui ne sait pas trop, qui voudrait peut-être se lancer dans la compétition, qu'est-ce que vous lui diriez ? Il y a des contre-indications, il y a des choses à savoir avant de se lancer ?
Alors les contre-indications, je dirais, c'est comme tout pour tout le monde, faut un certificat médical, donc aller voir un médecin. Mais bon, au final, dans le handicap, va y avoir que les problèmes vraiment cardiaques, respiratoires qui peuvent peut-être amener une contre-indication.
Oui.
Mais sinon, tout ce qui est tous les autres handicaps, en fait, on adapte tout. Tout est adaptable, donc on peut tout faire. Il faut se lancer en fait, il ne faut pas avoir peur, même si des fois ça peut perturber parce qu'on arrive dans des groupes, des fois des équipes qu'on ne connaît pas, on peut être timide, moi c'était mon cas au départ quand j'étais jeune, j'étais très timide, mais il faut se lancer et après, une fois que c'est fait, on peut être que heureux.
Oui, et vous avez bien fait justement de vous lancer dans la compétition, l'athlétisme en premier, puis après le rugby fauteuil, vous êtes toujours et vous allez continuer encore combien de temps, vous le savez ?
Tant que mon corps me le permet, je compte continuer. Là, il y a Paris 2024 donc, qui arrive dans 3 ans, qui arrive vite, où on a des gros objectifs, hein, parce que clairement, maintenant, on se prépare pour dominer et avoir l'or à Paris, chez nous. Et puis après, moi, je me vois tout à fait faire 2028, puis 2032, maintenant qu'on sait que c'est à Brisbane, pourquoi pas aller faire un petit tour là-bas.
Ben oui, pourquoi pas.
Donc, tant que mon corps me le permet, moi, je continue.
Oui, oui, il y a une longévité qui est plus importante que pour les valides en handisport.
Oui, dans le handisport, on peut durer plus longtemps parce que les muscles ne sont pas les mêmes, les blessures ne sont pas les mêmes. On va avoir le problème du handicap qui des fois peut du coup restreindre par rapport à ça, à la longévité. Mais généralement, c'est vrai qu'on arrive à notre pic de forme plus tard et on dure plus longtemps. Et il y a aussi tout ce qui est... concurrence. Dans le handisport, il y a quand même moins de concurrence que dans le valide, ce qui permet aux joueurs de durer plus longtemps parce que ils ont personne pour les remplacer à leur poste.
Oui, mais ça doit être de moins en moins vrai justement.
Et c'est de moins en moins vrai parce que justement le handisport est en train de se professionnaliser. On ne l'est pas encore, malheureusement, on aimerait bien. Mais c'est en train de, en tout cas dans toutes les démarches, de se professionnaliser. Donc, qui dit professionnalisme, recherche de plus en plus de la meilleure performance possible. Donc, sur des détails, on joue de plus en plus et on devient vraiment comme le valide.
Oui, oui. Vous avez eu déjà des accidents sportifs, des chutes en rugby fauteuil ?
Alors, en rugby, que ce soit en rugby ou même moi en basket, on chute très souvent. Surtout que moi, je suis un joueur de défense, de rapidité. Donc, dès qu'on me touche, je tombe facilement. Puis, je suis tout léger en plus. Mais en fait on s'entraîne, on se renforce physiquement pour ça, on apprend à tomber aussi, donc les blessures c'est quand même assez rare. Moi je croise des doigts mais pour l'instant j'ai jamais vraiment eu de grosses blessures dans ma carrière, donc j'espère que ça va durer, mais ça arrive très souvent qu'on peut avoir par contre des petites douleurs au poignet, au coude en tombant en fait avec le choc, et puis comme un bleu en une semaine c'est parti et... Voilà.
Oui, parce que c'est vraiment impressionnant quand on voit les images de rugby fauteuil, on se dit mais ils doivent vraiment se faire mal, ils sont fous.
Mais c'est plus le fauteuil qui prend la charge que nous en fait, ils sont renforcés pour ça. Et puis nous c'est vraiment juste le contact avec le sol au moment de tomber, où là faut faire attention, on apprend comment se réceptionner, où tomber, comment, enfin tout ça. Pour éviter de se faire mal, mais c'est quand même assez rare.
Oui, en tout cas, on vous souhaite de continuer encore longtemps, Sébastien Verdun. On va rappeler, Delphine Gann, comment s'inscrire pour September et comment faire pour participer.
Oui, absolument. Nous, on vous invite à aller sur steptember.fr, soit le site internet, soit l'application. Et à partir de là, il vous suffit soit de créer une équipe de 4 avec vos amis, votre famille, ceux dont vous êtes proches et avec qui dont vous avez l'adresse email, et ou alors vous créez une équipe en individuel simplement sur le site. Il suffit simplement de créer son compte en équipe ou en individuel. Et à partir de là, vous lancez votre collecte et vous aidez à financer la recherche pour September et pour la paralysie cérébrale.
Voilà, et on espère que vous serez nombreux à le faire. Merci Delphine Gann, administratrice de la Fondation Paralysie Cérébrale. Et merci à vous également, Sébastien Verdun, membre de l'équipe de France de rugby fauteuil. Vous étiez à Tokyo il y a encore très peu de temps. Merci à vous deux.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.